liberté est un mot que le rêve humain alimente. Il n'existe personne qui l'explique et personne qui ne le comprenne. Les êtres humains sont des animaux mammifères, bipèdes, qui se distinguent des autres mammifères, comme les baleines, ou bipèdes, comme la poule, principalement par deux caractéristiques. Le téléencéphale hautement développé et le pouce préhenseur. Le téléencéphale hautement développé permet aux êtres humains d'emmagasiner des informations, de les mettre en relation, de les ordonner et de les comprendre. Le pouce préhenseur permet aux êtres humains un mouvement de pince des doigts. Celui-ci, à son tour, permet une manipulation de précision. Le téléencéphale hautement développé, allié à la capacité de faire un mouvement de pince avec les doigts, donna à l'être humain la possibilité de réaliser d'innombrables améliorations sur sa planète. Entre autres, de cultiver des tomates.
Des corps, de la bricole et un de ces merdiers.
Sur Radio Piquet.
On voulait commencer avec Thibaut.
C'est un truc qui s'appelle le crépi. Et non, c'est pas une offre d'emploi pour refaire des crépis. C'est le club, les clubs régionaux d'entreprises partenaires de l'insertion. Et qui sont ces gens-là? C'est des gens donc, qui sont... Les gens sont orientés par Pôle emploi ou les missions locales vers le crépi. Mais pourquoi faire? Eh bien, c'est un réseau d'entreprises qui galèrent à recruter parce qu'ils ont des emplois de merde mal payés. Et comme les gens veulent pas venir, eh bien, ils essayent d'autres manières de les faire venir. Donc une petite présentation du président des Crevards, donc de Philippe Moulia. Les crépis permettent de fédérer des volontés personnelles à travers le cadre facilitant qu'est l'entreprise. C'est un lieu de partage où chacun apporte ce qu'il souhaite et trouve ce dont il a besoin.
c'est sa définition de l'entreprise.
Du crépi, ouais, c'est beau. Ça fait rêver.
Le centre
n'est-ce pas?
Le centre social ou l'usine, après tout, c'est à peu près la même chose, hein. Enfin...
Dans ce crépi, donc dans ce réseau d'entreprises, on retrouve des fonds privés, genre FH, Carrefour et le Crédit Mutuel. Des fonds publics, comme le ministère de la Cohésion des Territoires et la charte Entreprises et Quartiers. Et aussi des assos, comme la Solidarité Nouvelle face au chômage et l'Agence du Service Civique. Si ça, c'est pas un réseau qui fait rêver. Mais le meilleur est à venir. Quelles sont les actions du crépi? Eh bien, le crépi fait des rallyes pour l'emploi. L'idée, c'est que quelqu'un d'une entreprise prend une voiture. Non, c'est plutôt des demandeurs d'emploi qui vont être baladés par quelqu'un d'une entreprise dans différentes entreprises pour aller visiter et discuter et éventuellement trouver un emploi. Nous avons des ambassadeurs métiers. Donc ça, c'est des personnes qui parlent pendant 2 heures de leur métier. Nous avons des parrainages, donc des chômeurs qui sont parrainés par des entrepreneurs pour trouver du travail. Nous avons sport et insertion, jouer au foot avec... Les recruteurs, c'est pas magnifique. Bon, peut-être s'il y a des combats de boxe, ça peut être sympa.
Ouais, il y a moyen de tacler dans le dos quand même.
Nous avons quand même, pour les personnes étrangères primo-arrivantes, un spécial destination emploi. Et le meilleur, à venir bientôt en Finistère, d'après un article du West France. Je vous lis le sous-titre parce que c'est beau. Séduire son futur patron en lui préparant un déjeuner.
Putain.
Et oui. Restaurant éphémère. Donc ils réunissent une quarantaine de recruteurs et c'est une brigade d'une quinzaine de demandeurs d'emploi qui vont leur faire à bouffer et leur servir tout gratuitement évidemment.
C'est nickel. Oh, t'es un laquais quoi. C'est ça que ça dit en fait, t'es un laquais.
Bah c'est le symbole ouais. Ah,
putain c'est horrible.
Et après 2 demi-journées de coaching avec l'AFPA et le Greta. Pour recevoir les fonds d'Amoto.
Ouais, je peux te dire, il y en a, ils vont bouffer de la pisse par contre. Hein. là, c'est un peu dangereux quand même.
Je demande à voir. Ils disent que c'est l'hôtellerie qui est un gros pourvoyeur d'emplois. Hein. Il y a 40 employeurs et 15 personnes qui vont être embauchées. C'est qu'il ne doit pas y avoir tant que ça d'emplois. Ouais. Et je suis assez curieux de savoir quel genre de personnes participent à ce genre de choses. Donc c'est bientôt, au mois de mars, en Finistère. Dans un camping 4 étoiles qui a été réservé pour ça. Et c'est suivi d'un job dating.
Mais moi, je travaille dans un organisme de formation professionnelle à Brest, et d'insertion et de formation professionnelle, et c'est le genre de choses auxquelles on va. On est les premiers clients de ce genre d'événements. Happy Entreprise, on est des fournisseurs de personnes qui pour participer à ce genre de choses. Ça, c'est un truc qui fonctionne en vase clos, en fait.
Ok.
Quand on en est à... Enfin, c'est tous les mots, quoi. C'est des pourvoyeurs d'emplois, ils créent des emplois, machin. Enfin, en fait, ils ont besoin de gens, quoi. Quand on en est à inventer autant de stratégies pour mettre les gens au travail, y compris à des stratégies de violence symbolique, quoi, comme le truc du... Pour trouver un boulot, t'es prêt à aller faire, en gros, un autre boulot, servir à bouffer, et bien faire la courbette, voilà, c'est que... Il y a des besoins, c'est pas le... Ah putain, quand ça m'énerve.
Puis c'est, je sais pas, un peu habitué aussi à avoir une espèce de salaire symbolique où en fait tu vas bosser pas pour avoir de la thune, mais pour créer ton réseau et pouvoir trouver du travail plus tard.
Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé ?
Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord ?
Oui.
Alors, au boulot et à pas vite !
Préconisons donc une laïcité qui ne sera jamais récupérable par le Front National, celle qui sépare l'Église capitaliste de l'État. Car il y a une Église capitaliste, il y a un culte capitaliste, il y a des croyances capitalistes. À la fois, nous sous-estimons le caractère de croyance du marché du travail, du marché des capitaux, parce que nous avons naturalisé cette institution du capital, donc nous ne pensons pas que c'est des croyances, nous pensons que c'est dans la nature, qu'il y a un marché du travail, que c'est dans la nature qu'il y a un marché des capitaux, alors que ce sont des construits sociaux, évidemment, qui n'ont pas toujours existé et qui n'existeront pas toujours. Nous sous-estimons qu'il s'agisse là de croyances, donc nous pensons que la croyance est ailleurs, elle est dans le voile, la burqa, le pape ou je sais pas quoi. Nous nous trompons de combat, nous y sommes éduqués dès l'enfance. Hein. Dès l'enfance, on nous éduque à satisfaire aux exigences du marché du travail. Voilà, il faut satisfaire aux exigences du marché du travail. C'est inouï quand on énonce ça. Hein ? Voilà, notre société est invitée à satisfaire aux exigences du marché du travail. Nous sommes là dans la divinité. Hein ? Voilà, il y a des exigences du marché du travail qui s'imposent à nous et que nous devons satisfaire. Il faut plaire à Dieu. Hein ? On ne peut pas... On ne peut pas vivre sans satisfaire aux exigences du marché du travail. Et les effets sont absolument dramatiques. Hein. Les effets dès l'enfance, hein, des effets d'appauvrissement de la projection de nous-mêmes, hein, les effets d'appauvrissement de notre ambition pour la conformer aux exigences du marché du travail. Hein, comment toute la scolarité consiste progressivement à nous rendre conformes aux exigences du marché du travail. Et je ne comprends pas que ce Dieu-là reste sans combat laïque. C'est quand même ahurissant. Quand on voit l'ardeur du combat laïque contre le voile et l'inexistence du combat laïque contre cette obligation de satisfaire aux exigences du marché du travail. Un marché du travail qui n'est pas du tout interrogé, comme Dieu, ça ne s'interroge pas. Il est là, ça s'impose. Dès le collège, on emmène nos gamins dans ces espaces que sont les salons d'orientation. Hein, les salons d'orientation. Il faut progressivement rendre l'image que nous projetons de nous-mêmes conforme à la divinité. Et si nous ne satisfaisons pas aux exigences du travail, nous sommes punis. Nous sommes punis, nous sommes au chômage. On est punis. Et invités à mieux satisfaire ces exigences par un travail sur nous-mêmes, d'amélioration de notre employabilité. Il faut améliorer notre employabilité. Il y a peut-être un truc qui ne correspond pas tout à fait à ce que Dieu attend. Comment est-ce qu'on pourrait... Et il y a des séances de confession. Il faut s'interroger hein, sur le fait comment... Moi, je suis catholique de tradition et même de pratique. Et comment l'abandon de certaines pratiques religieuses au sens classique du terme s'accompagne d'une pratique religieuse là où nous pensons qu'il n'y en a pas. Quand un conseiller d'orientation, quand quelqu'un qui nous aide à faire un CV... fait des cours de CV même. Nous interroge sur comment nous pourrions mieux satisfaire la divinité. Et qu'est-ce qu'on a fait pour pas la satisfaire? Quel péché on a commis? Tous les jours, je suis surpris que nous ne voyions pas l'évidence de cette religion mortifère et que nous ne nous révoltions pas en demandant sa séparation de l'État.
On va revenir sur le thème emploi ou insertion dans l'emploi. Ou insertion de l'emploi dans les gens, je sais pas trop. En tout cas, c'est Kat qui nous a préparé quelque chose et on va voir ce que ça donne.
Oui, alors nous allons commencer par un extrait d'une interview sur France Info. Désolé, ça va être un peu rude au départ, qui va présenter ce que c'est la certification Cléa.
Le rendez-vous emploi de France Info. Bonjour Philippe Duport.
Bonjour Céline.
Pas facile de prouver ce que l'on vaut quand on n'a aucun diplôme. C'est vrai que chercher du travail pose problème quand on est peu ou pas qualifié. Hein. On ne sait pas quels arguments avancer. Et ça, c'est le cas de 3 à 4 millions de personnes en France. Eh bien, il existe depuis quelques jours un certificat, le CLEA, une sorte d'examen que l'on peut passer pour prouver à un futur employeur que l'on maîtrise des compétences essentielles.
Oui, c'est une grande première hein, ce CLEA. D'abord parce qu'il est reconnu partout dans tous les secteurs d'activité. C'est un certificat qui atteste que vous maîtrisez 7 domaines de compétences comme la connaissance du français, la maîtrise du calcul, celle des outils informatiques ou encore l'aptitude à travailler en équipe. L'idée de cette belle invention, c'est de donner confiance à ceux qui en manquent, d'être en quelque sorte le premier diplôme de ceux qui n'en ont pas.
Bonjour Christian Jeannin.
Bonjour.
Vous êtes le président du COPANEF, l'organisme qui a mis au point ce certificat. Vous êtes un peu le papa de Cléa. On va voir avec vous très concrètement comment ça marche. D'abord, Philippe, on va écouter le témoignage que vous avez recueilli. C'est celui de la toute première personne à avoir passé le CLEA et avoir obtenu le CLEA.
Oui, Marie-Lyne Reynaud, elle a 46 ans et elle habite dans le Var.
Je suis dans le cadre d'une reconversion. J'ai 19 ans d'expérience dans la comptabilité et la gestion. Et cela fait 2 ans et demi donc, que je suis sans emploi. Ça fait un certain temps que je suis sortie du système scolaire. Donc j'ai voulu, par cette certification, j'ai souhaité voir un petit peu où me positionner. Et on m'a proposé donc la certification CLEA.
Est-ce que c'est un peu plus pour vous rassurer, vous, ou pour rassurer vos futurs employeurs?
Non, c'est pour me rassurer, moi. Pour moi, c'était une forme de challenge, et voir un petit peu où me positionner, et voilà.
Ah, Christian Jeannin, ça rassure hein, cette personne qu'on vient d'entendre, mais ce Cléa, il sert vraiment à quelque chose ?
Bah écoutez, on est au début de son histoire, donc nous on y croit et on va faire en sorte que ça serve à quelque chose. Mais le témoignage de Marilyn, de ce point de vue-là, il est effectivement intéressant. C'est une personne qui était à un moment de son parcours, à pas vouloir invoquer son diplôme, puisqu'elle en avait un de comptabilité, parce qu'elle voulait faire autre chose. Et elle ne savait pas sur quoi s'appuyer, et le Cléa, de ce point de vue-là, l'a rassurée. Et je pense que quelque part, ça va lui servir aussi vis-à-vis de ses entretiens professionnels pour retrouver une reconversion.
Et le Cléa, il est reconnu par les employeurs ?
Alors écoutez, je vous ai dit, pour l'instant, on en a un. Donc on va voir comment il va être reconnu. Non, en fait, il y en a deux. On a 17 dans les tuyaux, donc ça va monter en puissance. Et c'est l'expérience qui nous le montrera. A priori, il devrait être reconnu puisqu'il a été construit avec les organisations d'employeurs représentatives au niveau national. Donc quelque part, le MEDEF, la CGPME, l'UPA et toutes les confédérations qui ont été ont une responsabilité quelque part à construire et à légitimer en fait cet outil demain. Donc on verra ça dans un an, on commencera à faire le point.
On souhaite très bonne chance à ce Cléa. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Christian Jeannin. Philippe Duport, à demain.
C'est la croyance qu'on amène aux gens que ça va leur apporter quelque chose, quoi. Alors que c'est du vent. Ça correspond à une demande des entreprises qui ont des difficultés de recrutement ou qui ont, à l'intérieur de leur entreprise, des personnes qui sont illettrées et qui vont pas pouvoir, même si on leur demande de faire un boulot, en gros, c'est plutôt des boulots, donc tout ce qu'il y a en agroalimentaire, aide à domicile, des boulots qui demandent pas de qualification, mais auxquels on demande de plus en plus de remplir des protocoles. Donc il faut quand même qu'ils sachent lire, les gens. Et donc, du coup, c'est vraiment juste un truc qui va être noté sur le CV après par la personne, et qui va permettre d'identifier à l'entreprise que cette personne, elle sait déjà lire, écrire, elle a les choses de base qui vont... Donc l'entreprise n'aura pas à la former, elle pourra prête à l'emploi. C'est vraiment ça. Et donc ça intéresse comme entreprise, ceux où on dit qu'il y a des métiers en tension. Donc agent d'entretien des locaux, aide-soignante, aide à domicile et aide ménagère, aide et apprenti cuisine, employé polyvalent de la restauration. Après, il y a les ouvriers non qualifiés de l'industrie agroalimentaire, pareil de l'emballage et manutentionnaire, employé de libre-service, donc ceux qui travaillent dans les grandes surfaces, conducteur routier, serveur de café et restaurant. Et en 10e place, on a les ingénieurs et cadres d'études, R&D informatique, chef de projet informatique. Ceux-là ne sont pas concernés par le Cléa.
Ah bon ?
Non, on ne regardera pas ça sur leur CV.
Mais donc tous en gros, c'est des boulots durs, quoi.
C'est des boulots, des boulots que plus personne n'a envie de faire, des boulots qui sont souvent à temps partiel, avec des horaires à la con.
Ils sont durs physiquement.
Travail de nuit.
Mal payé.
C'est tous ces métiers-là, en fait. Et du coup, c'est quand même... faut se dire que là, la personne qu'on entendait parler, alors, le directeur du COPANEF, donc le COPANEF, c'est le Comité Paritaire Interprofessionnel National pour l'Emploi et la Formation. Et donc, ces gens réfléchissent avec des partenaires. Donc, les partenaires, c'est les entreprises et les organismes de formation, pour répondre à des besoins sur ces métiers-là. À aucun moment, ils ont l'idée de se dire que peut-être on pourrait augmenter le salaire de ces personnes. Donc ça intéresse l'entreprise, les entreprises concernées, parce qu'elles peuvent former gratuitement leurs salariés. Et les personnes qui sont... toutes les personnes non qualifiées, en gros, les personnes étrangères, les personnes qui vont être en prison, les jeunes déscolarisés, vont être orientés par leurs conseillers en insertion professionnelle, que ce soit donc directement en prison. Là, ils sont tous détenus et à un entretien obligatoire avec un conseiller en insertion en probation qui va lui parler de cette certification Cléa
et qui et de toute une autre série de gammes dont je vais parler après. Donc les jeunes déscolarisés, ça va être via leur conseiller, comment ça s'appelle, mission locale, qu'on va leur, leur parler de ça. Donc autrement, bah, au RSA, bah, ça va être la CAF qui va dire, ouais, il faut, y a ça qui existe, etc. Et, le, et l'autre chose que j'ai compris en, en travaillant moi-même dans en organisme de formation qui répond à tous ces appels d'offres, c'est que cette certification CLEA, elle est hyper intéressante pour un organisme de formation. Le salarié ou le demandeur d'emploi qui va venir faire cette certification, à l'issue en fait de cette de ce cette évaluation, il va avoir un plan de formation mis en place directement par l'organisme de formation, qui va dire, bah, en fait, il a certifié, par exemple, les compétences en français, pas celles en maths, et du coup, on va faire un plan de formation personnalisé à cette personne qui va intégrer après l'organisme de formation pour 10 heures de formation, ça peut être jusqu'à 120 heures, et ça fonctionne comme ça en fait. Donc c'est pour eux un grand intérêt de cette certification qui est pour juste une porte d'entrée pour après amener vers ce qu'ils appellent des gammes.
Pour l'orienter dans son parcours, son conseiller emploi-formation lui a alors parlé de l'offre de la région Bretagne. Une offre qui repose sur deux gammes, prépa et qualif. La première, prépa, s'adresse à des personnes comme Théo qui connaissent des difficultés d'insertion professionnelle et ont besoin d'un temps de préparation avant d'accéder à une formation qualifiante ou à l'emploi. Trois parcours sont possibles en fonction de chaque situation. Prépa Avenir, Prépa Projet et Prépa Clé. Prépa Avenir est un tremplin pour trouver sa voie, construire son projet professionnel et valoriser ses compétences. Avec Prépa Projet, il s'agit cette fois d'explorer les métiers pour concrétiser son projet professionnel. Prépa Clé permet d'acquérir les compétences indispensables au monde professionnel. Qualif Emploi s'adresse à tous ceux qui, comme Sophie, ont déjà confirmé leur projet professionnel et souhaitent se former à un métier. La seconde offre permet, comme son nom l'indique, de se former au métier de la filière sanitaire et sociale. Enfin, Qualif VAE est une aide individuelle pour les demandeurs d'emploi qui entament une démarche de validation des acquis de l'expérience. Pour les stagiaires prépa et Qualif, la formation est intégralement prise en charge par la région. Une aide financière est également possible pour couvrir les frais liés à la formation. Avec ces offres sur mesure, chaque Bretonne et Breton aura donc les moyens de fixer son cap. Favoriser l'accès ou le retour durable à l'emploi, voilà le but de la région Bretagne, qui porte une attention toute particulière à l'égalité des chances.
Sacrée trouvaille, hein, l'égalité des chances. On appelle ça un oxymore. Vous savez ce que c'est qu'un oxymore ? C'est quand les deux termes s'annulent, vous savez ? Un soleil noir, un silence assourdissant. L'égalité des chances, c'est bien. Soit c'est l'égalité, soit c'est les chances. Ça peut pas être les deux. L'égalité des chances, ça veut dire que pour le lièvre comme pour la tortue, la ligne de départ est la même. L'égalité des chances, ça veut dire l'inégalité.
C'est un mensonge d'État, c'est un mensonge colossal, mais ça marche. Quand la bourgeoisie prend le pouvoir sur l'aristocratie au moment de la Révolution française, il faut une nouvelle explication aux inégalités. C'est-à-dire, ça ne peut plus être Dieu, les inégalités. On va complètement libérer les forces productives. Chacun, ça va être la loi de la jungle, ok. Ça n'est plus structuré par un système d'aristocratie, etc. Et ça va générer des inégalités absolument considérables. La nouvelle explication de ces inégalités, c'est l'école. L'école va devenir la justification du fait que certains sont riches et d'autres sont pauvres. Si vous êtes pauvre, c'est parce que vous n'avez pas bien travaillé à l'école. Donc le mythe, le mensonge qui se met en place à ce moment-là, c'est tout le monde a des chances absolument égales, l'égalité des chances, okay, il suffit de bien travailler à l'école. Ce qu'on nous resserre régulièrement, enfin, encore cette chroniqueuse à la télévision qui a dit ça, Graziani, qui parle de, d'une femme au SMIC en disant « Oui, mais est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ?» le discours de Macron, il est là-dessus. Quand on veut, on peut. Il suffit de bien travailler. Donc on sait que c'est un mensonge. Sociologiquement, c'est un mensonge. Ces débats sont déjà présents au moment de la Révolution française. Au moment de la Révolution française, même Condorcet qui met en place un système extrêmement inégalitaire, pense la façon de tempérer ce système, à savoir faire de l'éducation politique des adultes, ce qu'il appelle l'éducation populaire, etc. etc. Donc les problèmes sont posés dès le début, sont connus dès le début. Et un certain nombre d'objections qui sont faites à Condorcet, notamment une où on dit votre système crée de l'inégalité, des élites. Et il répond oui, mais je tempère ce système en mettant aussi de l'éducation politique en place. Et Condorcet dit, si vous ne faites pas ça, dit, vous allez simplement bâtir une société dans laquelle les inégalités seront désormais fondées sur les savoirs. C'est exactement là où on en est. On est dans une société où on nous fait croire, et c'est le rôle de l'école républicaine. Républicaine, ça veut dire capitaliste. Hein. le rôle de l'école républicaine est de faire croire à la possibilité d'une égalité réelle. C'est un mensonge d'État, c'est un mensonge colossal, mais ça marche. Toutes les écoles alternatives, les écoles, tout ce qu'on appelle l'école, l'éducation nouvelle, hein, le plan Langevin-Vallon, qui sont deux communistes, etc., sont des écoles qui visent au contraire à permettre à des enfants de devenir des citoyens politiques, des citoyens critiques. À développer leur capacité de penser le monde et de raisonner. Ce n'est pas ce que fait l'école républicaine, c'est pas ce que fait l'école de Jules Ferry. L'école de Jules Ferry est une école qui sélectionne par le langage, par la capacité d'abstraction et qui maintient les positions sociales.
Et tu remarques que les termes prépa, c'est quand même habituellement, c'est plutôt l'excellence quoi qui est là-dedans. Et là, c'est vraiment des endroits où on met un peu tous les gens qu'on aimerait bien voir au travail quoi.
Oui. C'est prépa avenir. Mm. Tu remarqueras que les classes préparatoires au collège, au lycée, il y a pas marqué avenir, tu vois. Ça, c'est bizarrement, c'est pas la peine de préciser quoi. Mm. On fait une petite pause musicale alors.
Allez.
Avec Stupéflip, voilà, et puis ça va nous chauffer un peu.
Mais où vous étiez? Je vous cherche depuis une heure. Désolé, mais j'étais encore au self. Ils ont un très bon gratin dauphinois aujourd'hui. Vous m'avez fait perdre une belle occasion de gagner un marché. Et vous m'avez coûté de l'argent.
Allô?
Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte.
Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, n'oubliez pas.
C'est tout ce que vous trouvez à dire.
Ouais. Allez vous faire foutre.
Ah bah la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les toits. La hiérarchie pour tous ceux qui ont les mains noires. Ah bah la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les toits. La hiérarchie pour tous ceux qui ont les mains noires. C'est ça, boss, boss, boss. Beaucoup, écrase-toi et mets ton orgueil au porte-manteau. Tout le monde y pense, tout le monde oublie. Personne se bat, tout le monde subit. Alors tu bosses 15 bombes sur un Macintosh. C'est moche, y'a le boss qui vénère comme un boche. Il te crache dessus, tu stresses et l'angoisse.
Peut-être pour vous montrer un peu l'ambiance, enfin la façon dont on parle dans un organisme de formation, le CLPS, il y a un directeur qui s'appelle Sébastien, je crois, Pinard, qui est directeur de... Donc le CLPS a plein d'antennes partout en Bretagne. Et voilà, il fêtait ses vœux aux salariés cette année sur YouTube, c'était hyper moderne.
Au cours de l'année 2019, avec de très forts enjeux sur le plan des appels d'offres, le CLPS a su tirer son épingle du jeu. L'organisation, la montée en charge et la mise en œuvre de ces dispositifs seront des objectifs primordiaux en 2020. Mais l'année 2020 sera aussi impactée par les réponses aux appels d'offres. En ce début d'année, le dispositif compétences clés et les prestations Pôle emploi, puis à l'été, les formations courtes AGFIP et le dispositif PPIP des services pénitentiaires. Notre positionnement sur l'apprentissage en tant que CFA représente un investissement et un réel enjeu pour nous. Dans le cadre de la réforme, d'autres sujets importants sont à prendre en compte, tels que la transformation des OPCA en OPCO et l'autonomisation des actifs avec le développement du CPF monétisé. Cela nous conduit à poursuivre notre stratégie de communication afin de capter les demandes individuelles et revisiter nos outils pour développer notre notoriété. L'obtention de notre agrément qualité dans le cadre des nouveaux processus d'habilitation sera un enjeu majeur. Enfin, la poursuite du développement de notre offre digitale sera encore, cette année, une priorité.
Voilà. On ne comprend pas tout. Hein,
les PPIP, le CFPS monétisé, enfin, c'est limpide quand même,
CPF,
faites un effort.
CPF, c'est le seul truc que j'ai compris.
Ouais.
Ouais.
Compte personnel de formation.
Monétisé. Ouais. C'est plus des heures, c'est de la thune.
C'est des euros.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Enfin, le 1er décembre prochain, le CLPS aura 40 ans. Nous aurons l'occasion de reparler de cet événement. Cela nous permettra aussi de démontrer que dans un monde qui évolue autour de nous, le CLPS est resté fidèle à son intention de départ, accompagner les personnes les plus fragiles au regard de l'emploi.
L'enfant des pauvres, c'est nécessaire, tout un chacun s'exerce. S'il n'y avait plus de misère, ça pourrait bien ruiner le commerce. Mais je vais vous dire mon sentiment, c'est trop d'hypocrisie. Plaindre les pauvres, assurément, ça rapporte plus que la poésie.
Le capitalisme, il ne nous tient pas que par la crainte de perdre son emploi, les flics dont on voit aujourd'hui combien ils sont extrêmement dangereux, en fait, etc., etc. Le capitalisme, il nous tient aussi par des affects positifs. Dans les affects positifs, il y a la solidarité avec les pauvres. La solidarité avec les pauvres, on y est très attaché. Or, c'est ce qu'une action politique doit contester. Parce que la solidarité avec les pauvres entretient la pauvreté.
Je maintiens qu'il est absolument fondamental de se battre contre toute définition de quelqu'un comme exclu et comme pauvre. Laissons ça au capital et à ses bonnes sœurs. Personne ne peut être défini comme exclu et comme pauvre. Définir quelqu'un par son manque, c'est lui faire une violence tout à fait considérable.
Noureddine, June et Nouraï veulent apprendre le français.
Pour la rentrée, ils se sont donc inscrits au CLPS, un organisme de formation pour adultes. Ils vont bénéficier chacun de 350 heures de cours pour se familiariser avec notre langue. En fin décembre, Noureddine, June, Noureille et les autres stagiaires du groupe devront passer un diplôme, le DILF A1.1. Le diplôme d'initiation à la langue française.
En France, le A1.1 est un niveau de bonne débrouillardise à l'oral, hein, donc savoir se faire comprendre et comprendre à minima, et un minimum d'écrit, savoir remplir son adresse, son nom, un formulaire.
Avant d'ouvrir des portes professionnelles, ce diplôme permet surtout de rester légalement sur le territoire. Certaines préfectures peuvent l'exiger pour renouveler les titres de séjour. À temps plein ou à temps partiel, la durée de prépa projet est personnalisable. Un mois pour Emmanuel, 6 mois pour Corinne.
On est en train de faire des exercices pour redéfinir ses personnalités, ses centres d'intérêt, ses qualités, ses défauts. C'est à nous d'aller sur le terrain, d'essayer de trouver des professionnels qui peuvent répondre à nos questions pour avoir le plus de contacts possible, se faire une idée réelle de ce métier pour être sûr que c'est... C'est vraiment cette formation qu'on veut faire.
L'utilisation des outils numériques, de différents sites pour connaître le marché de l'emploi, pour savoir vers où aller, les sites du Greffe Bretagne, de la région Bretagne, pour savoir vers quelle formation s'orienter.
Je suis formatrice de cette formation Cléa et le but c'est d'amener les détenus à passer la certification Cléa, à obtenir l'évaluation finale au bout d'un certain moment. En fait c'est pas du tout scolaire, c'est une certification professionnelle qui certifie des savoirs de base interprofessionnels qu'on retrouve dans toutes les professions. Donc oui, il y aura du français, des maths, mais utile au travail. Et il y aura aussi de l'informatique, du travail en équipe, tout ce qui est règles de sécurité, hygiène, environnement, travailler en autonomie, comprendre les règles du travail, son environnement de travail, et puis aussi être capable d'évoluer au sein de son travail.
On va écouter la vice-présidente de la région Bretagne en charge de l'insertion, donc Georgette Briard, qui a rencontré donc des jeunes qui faisaient ce dispositif-là. Son groupe politique Alliance progressiste des socialistes et démocrates de Bretagne.
Ce qu'il faut retenir, Yvon, c'est que l'élu s'est rendu compte que la plupart des détenus qui suivent la formation Cléa ont déjà des projets pour leur sortie de prison. C'est ce qu'elle a observé en discutant avec Kylian. Elle a tenu à l'encourager.
Il a bien compris ce à quoi la formation peut lui servir. Effectivement, autant bonifier et puis valoriser son temps de détention. C'est un temps particulier pour le détenu. Et là, il a bien compris que ce temps-là, lui, il pouvait le valoriser et utiliser cette valorisation à la sortie, parce qu'il va sortir avec des compétences affirmées, validées. Il va pouvoir se présenter dans une entreprise pour faire une formation en alternance et dans un centre de formation en alternance en disant, voilà, je sais déjà faire ça et vous n'aurez pas à m'apprendre ça. Donc c'est du temps gagné. Bravo à lui.
Je le répète, nous sommes un pays occupé. On peut mieux redistribuer tout ce qu'on veut tant que nous ne décidons pas de l'outil de travail. Et de l'outil de travail dans sa totalité. Parce qu'on peut évidemment faire des jardins bio dans un océan d'agrobusiness. Évidemment qu'on peut faire des formes locales de production d'électricité en laissant Areva produire son nucléaire. Sauf que c'est pas sérieux. Nous sommes confrontés à un adversaire tel que nous devons avoir un projet révolutionnaire. Et un projet révolutionnaire, ça ne peut jamais passer, alors ça je te le dis avec une grande fermeté, ça ne peut jamais passer par le soutien aux pauvres. Ça c'est de la merde. Moi je ne soutiens pas les pauvres. Je ne désigne personne comme pauvre. C'est faire une violence infinie aux personnes que de les définir par leur manque. Je ne suis pas solidaire de toi parce que j'ai et que t'as pas. Ça c'est de la saloperie. Je suis solidaire de toi parce que nous avons ensemble à construire une alternative au capital. Et c'est pas une partie de plaisir.
Mesdames, messieurs et chers actionnaires, je tiens à vous dire pute salope, enculé, couille canard, mal monté, branleur, pisseuse, garce, suceuse, que le dernier conseil d'administration, fion, con, queue, tête de nœud, sac à bite, sueur de mythe, a décidé à l'unanimité. Fils de pute, enfoiré, reluqué, mal baisé, foutre de chien, fumier de lapin, de vous saluer. Grand couillon, merde, chier, con, pine, morue, trou de cul. À jeudi prochain.
C'est la région qui est compétente sur l'insertion et la formation professionnelle. Donc la région se réunit avec Pôle emploi, avec la mission locale, avec donc des organismes de formation type Greta, ITES, donc le CLPS, pour réfléchir en fait à vraiment comment on pourrait lutter contre le chômage, ce truc terrible qui et il y a parfois des innovations qui sortent de ces réunions là, et donc la dernière en date de ce mois de janvier 2020, ça vient de sortir, ça s'appelle la biqualification pluri-emploi.
Et c'est génial, je vous jure, c'est génial.
Conducteur, conductrice de transport en commun sur route et assistante de vie aux familles.
Ça, c'est super.
Deux formations, deux CDI, un temps complet. Alors, objectif de la formation. Les métiers du transport voyageur et de l'aide à domicile sont en tension. Le parcours biqualifiant proposé permet d'occuper un emploi partagé à temps complet entre une entreprise de transport voyageurs et une structure d'aide à domicile. Vous assurerez sur des horaires de travail complémentaires le transport scolaire des élèves et l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie dans les actes essentiels et ordinaires de la vie quotidienne. Alors il faut imaginer le temps passé en réunion, hein. Je pense que ça fait au moins 2 ans qu'il y a des gens qui se réunissent pour imaginer ce nouveau dispositif incroyable, quoi.
Par contre, tu peux y aller, tous les logos de la région Bretagne, c'est à chaque page et c'est systématiquement bien placé, quoi. Ça c'est bien.
Alors ce que tu es en train de visionner, c'est le PowerPoint,
ouais, j'imagine.
Qui était adossé à cette affiche, l'affiche était aussi assez superbe. Et donc, dans le PowerPoint, il y a un petit peu de détails.
Ils savent mettre des flèches.
Donc, ouais, ils font plein de flèches. Donc Et ce que j'aime bien, c'est cette page-là. Ce sont deux secteurs d'activité complémentaires. C'est d'une part des salariés au profil proche. Moi, j'ai du mal à voir en quoi conduire des gens, trimballer des gens en transport en commun et aller chez ces mêmes gens les laver. C'est le même profil de salarié.
T'es dans la merde, quoi.
C'est.
T'as pas trop le choix de ton boulot.
Sens du service.
T'en es à envisager ça, quoi, comme.
Eh ben, eux se disent que non. C'est parce qu'ils ont le sens du service et de l'usager, une rigueur et un sens des responsabilités, de l'autonomie et emploi de proximité. Là, tu comprends pas.
Ça veut rien
pas.
Dire. Ouais. C'est super. C'est après.
Ça. Bon.
C'est
ok.
Les temps d'activité. Compatible pour partie. C'est magnifique. Alors, la conduite des voyageurs, c'est une activité matin et soir, du lundi au vendredi, pendant les périodes scolaires. L'aide à domicile, c'est des besoins en milieu de journée, le week-end, pendant les vacances scolaires. En gros, tu bosses...
Tout le temps.
Tout le temps, avec des horaires fractionnés. C'est
du cumul d'emplois. Hein.
Oui,
c'est
oui,
juste ça. C'est littéralement deux CDI, tu vois, des gens qui sont censés... s'occuper de l'emploi, sont en train de se branler la nouille et de trouver ça super cool que les gens cumulent en fait des emplois de merde en plus. Et ouais, c'est effrayant tout ce système qui est en place pour, à coup de violence symbolique, quoi, en gros, foutre les gens dans des boulots de merde et surtout qu'ils les acceptent volontairement d'eux-mêmes, voire qu'ils soient fiers d'avoir leur Cléa ou leur merdier là. Et pendant que bon, les métiers, les métiers réels quoi, disparaissent, il faut bien des gens pour aller torcher les vieux quoi. Donc on va leur on va forcer des gens là-dedans quoi.
Alors on a le détail de leur journée de l'emploi du temps. Donc tu commences à 6h30, de 6h30 à 9h tu es en conduite, transport. Après tu as une pause. Donc tu passes à c'est pas une pause en fait parce que c'est ton deuxième CDI que tu enchaînes après. Donc du coup, tu as une demi-heure qui n'est absolument pas payée, qui est pas de la pause, qui est rien, c'est une demi-heure où tu voilà, tu vas conduire en plus hein, pour être à 9h30 du coup. De 9h30 pareil. À 15h30, tu es aide à domicile. Tu as quand même une pause de 45 minutes dans ce temps là qui doit être posé quelque part. Et après, à 16h, de 16h à 18h30, tu reprends la conduite. Donc, pareil, bah, la pause là, entre 15h30 et 16h n'est pas une pause. Et donc, ça fait des journées
de 12 heures.
C'est énorme. Tu commences à 6h30 et tu finis à 18h30, mais tu es bien à 35 heures. Hein.
C'est une journée de 12 heures avec une pause de 45 minutes.
Ouais. Et donc, ça change le mercredi.
11h15 par jour.
Ça change pendant les vacances, etc. Ça change au gré des besoins, quoi. Pendant les vacances scolaires, du coup, il n'y a plus de trajet de transport en commun, en fait,
les
à faire.
Les congés payés sont à positionner pendant les vacances scolaires. En été, positionner les congés entre fin juillet et début août. En fait, pose tes congés quand on te le dit, quoi.
Ah, ils ont bien réfléchi au cadre. Et donc, du coup, ouais, ça, c'est vraiment des conditions toutes pourries, quoi. Ouais.
Ah, ça recrute déjà, là ?
Planification, recrutement Brest. Donc, il y a une conférence de presse de prévu le 10 mars. Et voilà, donc c'est deux organismes de formation différentes. Il y a l'ESF pour la conduite et le Greta pour l'aide à domicile qui sont associés main dans la main pour ça et pour nous faire un planning, du coup, de la formation où ils alternent.
14 février 2021, signature des CDI. Et tu noteras, signature, il n'y a pas de S. Ils espèrent pas tellement de signatures. Ils ont bien bossé à la région.
Voilà. Ouais.
C'est effrayant parce que c'est aussi le. Pour moi, ça va avec la destruction de l'école, quoi. C'est-à-dire, il faut en vrai, ben, il va falloir des gens pour torcher les vieux, s'occuper d'eux. Tellement les solidarités, les sociétés ont été détruites. Il y a assez peu de gens qui ont envie de faire ça naturellement, quoi. Donc il va falloir les matrixer, quoi. Enfin, tu vois, à coup de violence symbolique, leur faire croire que c'est cool, que de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Et bah, voilà, en gros, tous ceux qui n'ont pas été faire des études sup, tous ceux qui se sont barrés de l'école parce qu'ils n'y voyaient aucun avenir, tous ceux qui arrivent aussi dans le coin, ben, on va les mettre là-dedans et puis on va les faire bosser deux boulots en même temps tellement c'est trop fun. Et tout ça, c'est annoncé comme quelque chose de cool, quoi.
Ouais, hier, sur Inter, tous les samedis, il y a un truc qui s'appelle Interception. Et hier, la thématique de Interception, ça dure une heure, c'est le samedi matin. C'était sur l'école de la deuxième chance. Et c'était à peu près la même dégueulasserie que ça. Et la nana y avait une nana qui témoignait. Et au final, l'école de la deuxième chance lui a mis vachement de pression. Enfin, elle racontait son parcours. Elle avait quitté l'école quand elle avait 17 ans. Elle avait une petite fille, elle avait 21 ans. Là, elle avait 24 ans, elle était repassée par ces dispositifs humiliants. Alors elle ne le disait pas comme ça. Mais au final, effectivement, elle était aide de vie, enfin auxiliaire de vie, je ne sais pas comment on dit, mais en gros, elle torche le cul des personnes âgées. Et somme toute, c'est plutôt bien d'accompagner les personnes âgées. C'est juste qu'elle, elle était assez fière, d'ailleurs, de faire ce travail-là. Enfin, c'est juste tout l'endoctrinement quoi, par lequel elle était passée et on s'appuie sur une certaine faiblesse en fait, sur, sur son manque de confiance en elle, sur le fait qu'elle n'ait pas de thunes, le fait qu'elle elle se soit barrée de l'école et qu'il y a quand même un moment où tu sens qu'elle culpabilise pour ça. Enfin, ça repose que là-dessus, en fait. Et comme c'est l'école de la deuxième chance, c'est presque l'école de la dernière chance, en gros, elle fait ce métier-là qui est payé une misère. Vu ce qu'elle raconte, c'est une femme jeune, mère célibataire et noire. Et du coup, les conditions de travail, elles sont dégueu, quoi. C'est ce que tu disais au début, plutôt que d'inventer des trucs comme ça de merde, on se pose pas la question de payer plus ces gens-là qui font parce que c'est ça. Enfin, si ces métiers-là, ils sont en tension, c'est parce que t'es payé comme une merde, t'as des horaires complètement décalés et que ça bousille le corps, quoi. Mm. Et que la vérité, c'est pas un truc comme ça qui changera quoi que ce soit, c'est qu'on les paye ces gens-là, quoi.
En tout cas, ça va engraisser des organismes de formation.
Ouais, mais ça, c'est sûr.
Surtout qu'à partir de septembre de cette année, de 16 à 18 ans, il y aura une obligation de formation pour tout le monde. Histoire de bien continuer de les engraisser. Un nouveau marché s'ouvre.
Ah, il n'a pas parlé de ça dans ses vœux, là, le boss du CLPS.
Non, la suite était plutôt sur, comment on appelle ça, la démarche qualité. Mais le CLPS est en pleine démarche qualité et du coup, il va falloir prouver que ça fonctionne très bien. De ce que j'en ai compris, l'évaluation est entièrement liée à la taille des locaux, le nombre de formateurs par stagiaire, le nombre d'ordinateurs dans la structure, de mètres carrés d'administratif, est-ce que les émargements sont bien remplis. Enfin, plein de choses qui n'ont rien à voir avec la qualité, quoi.
Il y a un autre truc dans Interception, là, hier, qui était pas dit, vraiment. C'est, en gros, ils vont chercher des entreprises qui leur font confiance. C'est ce qu'ils disent, quoi. Pour être partenaire de cette école de la deuxième chance. Et pour ça, c'est la même chose. Il faut qu'ils fassent la démonstration que leur parcours, il fonctionne. Et du coup, là, ils annonçaient un taux de réussite à 60%. Donc, il y avait une question, et les 40% autres, ben, soit ils n'étaient pas prêts, soit ceci, soit cela, d'accord. Sauf que ça disait quand même que ça remettait en cause leur crédibilité, le fait qu'il y ait 40% de gens qui ne réussissent pas. Ce qui veut dire que si tu pousses la logique plus loin, ils ont besoin d'être crédibles. Et du coup, ils choisissent les gens qui ont droit à l'école de la deuxième chance. Ce qui veut dire que si jamais, dès le départ, tu ne rentres pas dans le moule, ben, tu n'y as pas droit. Après, je sais pas, peut-être que c'est pas plus mal, mais tous ces trucs-là, c'est encore une fois, c'est de la thune, c'est de la thune de formation, c'est de la thune, enfin, c'est la nôtre déjà, et ils sont dans une démarche de rentabilité, et donc en fait, on s'en fout des gens.
Oui, parce qu'il y a vraiment en plus des sélections à l'entrée.
Ah ouais, c'est ça. Là, c'est ce qu'il racontait aussi.
C'est que en fait, ça croule hein, sous des volontaires pour entrer dans ces trucs-là, parce que en fait, pour si tu veux avoir, dans certains cas, avoir les aides sociales que tu as et continuer à les toucher, en gros. Eh ben, il faut rentrer dans ce genre de dispositif. Donc oui, des clients, il y en a. Et tous les organismes de formation font ce qu'ils appellent des infocalls. Parce qu'ils adorent avoir... Donc les infocalls sont des informations collectives. On dit infocall dans le milieu. Et donc les gens viennent s'informer sur tel dispositif. Et en fait, ont une évaluation faite ce jour-là. Et après, il y a des entretiens, etc. Et puis les gens, les responsables de formation, le but du jeu, c'est qu'ils aillent au bout de la formation, quoi. Parce que, en fait, pour un organisme de formation, tu seras évalué par ton taux de réussite de parcours, comme ils aiment bien dire maintenant, puisque rien n'est qualifiant, rien n'est... Mais c'est des parcours.
Tu as fait du chemin.
Et voilà, on mesure le parcours parcouru. Et généralement, d'ailleurs, c'est ça qui est hallucinant. C'est qu'à chaque fin de parcours, on te dira « Oui, maintenant, c'est bien pour ça, mais tu pourrais du coup aller vers tel autre parcours. » Voilà, ça peut être sans fin. Il y a des gens, et ça fait 3-4 ans, qui sont dans des dispositifs du CLPS.
Ils parcourent,
mais...
Ça doit être tellement l'ennui, en plus.
C'est...
En vrai, quoi, ça doit être chiant.
Et t'as des familles entières qui qui parcourent.
Oh là là, mais comment ça doit les assommer, quoi.
Du coup, tu passes tes années à l'école pour apprendre à apprendre, et après, quand tu sors, tu te formes à te former, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est génial.
Il y a une schizophrénie au niveau de l'école par rapport à ça aussi. C'est-à-dire, dans le même mouvement où, tu sais, on te dit, il ne faut pas évaluer, machin, on va arrêter de faire des contrôles, l'important, c'est d'apprendre des choses, machin, ouais, mon cul. Après, tu vois que dès que tu es sorti de l'école pour une raison ou pour une autre, l'important, c'est le parcours. Donc, en gros, l'important, c'est d'avoir ton bac, on pourrait dire, plutôt que d'avoir appris des choses, si on applique ça à l'école. Or, on passe notre temps à raconter l'inverse aux gamins à l'école, quoi.
Puisqu'aujourd'hui, l'éducation permanente tente à être réduite au sens de l'éducation extrascolaire des jeunes origines, il y avait toute une réflexion sur la nécessité et en même temps les limites de l'éducation scolaire. Philippe Combes a bien exprimé cela quand il a dit que, notamment en partant des luttes contre l'analphabétisme, on avait constaté que ce n'était pas possible de réduire l'analphabétisme par une mesure d'obligation légale d'éducation, et il a constaté que l'obligation légale d'éducation dans les pays développés elle-même n'avait pas les effets qu'on attendait d'elle. Et c'est là qu'il a lancé cette idée qu'il y avait trois éducations: l'éducation institutionnelle, qui est l'éducation formal education, l'éducation formelle, comme on a traduit en français, qui est imposée en général par l'institution, qu'il y avait une éducation choisie, volontaire, par des associations beaucoup plus souples, mais plus pénétrantes, ce qu'il appelle non-formal education. Et puis une troisième formation, souvent à domicile ou avec des copains ou dans des groupements de voisinage, qui sont liés à des enseignements à distance, par la radio notamment, en ce temps-là, et qu'il a appelé informal education, c'est-à-dire une éducation inorganisée, où l'initiative du sujet est très grande. Bon, alors, devant ces faits, de l'éclatement de l'éducation en même temps que son extension à l'échelle du monde, il y a eu des réflexions théoriques pour promouvoir une éducation permanente qui soit à la fois scolaire, ou tour à tour scolaire et extrascolaire, tour à tour imposée et tour à tour volontaire, etc., etc. L'école, qui pourtant était peuplée d'éducateurs novateurs, qui étaient ouvertes à cette idée, l'école en tant qu'institution a opposé un refus. Alors, elle est restée en dehors. Alors l'éducation permanente a été rejetée dans une éducation des adultes extrascolaires. C'est pas parce que l'école a fait les Greta, qu'elle a rattrapé les choses comme ça dans un petit secteur, qu'elle entre dans le mouvement d'éducation permanente en tant que formation initiale, préparant aux formations continuées. Non, l'esprit n'y est pas. Alors, même s'il y a des exceptions, parce qu'il y a des éducateurs qui sont tout à fait partisans de ça, mais ils sont très isolés. Et ils font des choses que souvent les réformateurs ignorent. Je pourrais citer beaucoup d'exemples. Alors, c'est ça la formation permanente. C'est d'abord un mouvement social, qui n'est pas un mouvement social de type politique, de sociopolitique, mais socioculturel, n'est-ce pas, devant aboutir à susciter des lois nouvelles, des formes nouvelles d'éducation, à la fois adaptées aux nécessités de la connaissance et en même temps aux demandes variées aux différents âges de la vie, dans tous les milieux et les classes sociales. Il me semble que ce mouvement appelait un vaste débat national sur la légitimation du savoir, qui ne serait pas seulement le monopole de l'enseignant, qui est dépositaire d'une qualité qu'il faut d'abord reconnaître, mais qui doit négocier avec tous les partenaires sociaux qui utilisent la connaissance désormais dans la vie quotidienne des entreprises, des associations, des différentes organisations.
Vous voulez que je vous donne une bonne nouvelle ?
Pourquoi pas ?
Regardez vos boîtes mail, on a reçu un mail de Réseau Salariat. Je sais pas ce qu'il contient, j'avais juste envie de dire Réseau Salariat.
Ouais. Je sais pas si t'as fait le tour un peu, Kat.
parler de réseau salariat, j'avais un petit truc quand même de Bernard Friot qui cause et qui permet de se décaler un petit peu de tout ce monde horrible, capitaliste dont on a parlé.
On se quitte vraiment là-dessus.
Ouais.
Au fondement du pouvoir de la bourgeoisie, il y a son pouvoir sur le travail. C'est finalement elle qui organise la façon dont nous constituons notre monde dans une négociation qui n'en est pas une, parce que le capitalisme ne négocie pas avec la nature, il la détruit, c'est autre chose. Mais je veux dire, dans notre rapport au reste du vivant, dans nos rapports entre nous, nous constituons notre monde comme espèce. Et dans cette constitution-là, alors il y a effectivement des activités privées, mais il y a du travail, c'est-à-dire quelque chose qui, au terme d'une délibération qui peut être totalement non démocratique, dans le cas du capitalisme, c'est totalement non démocratique, décide de ce qui vaut dans ce que nous faisons. Bien. Et tant que la bourgeoisie capitaliste détient les clés du travail, elle tient en otage la société, évidemment. Hein. Et on voit bien que les victoires électorales, par exemple, ou des affirmations dans l'espace public, du genre Nuit debout, ou les ronds-points des Gilets jaunes, ou des manifestations dans l'espace public, quelle que soit leur force, tant les victoires électorales que ces manifestations-là, ces expressions-là, ces prises de pouvoir dans ces lieux publics échouent tant que nos adversaires tiennent la production. Et donc, pour moi, le cœur de la lutte de classe, c'est la prise du pouvoir sur le travail. Alors, la prise du pouvoir sur le travail, beaucoup plus possible aujourd'hui qu'il y a 50 ans, par exemple, hein, pour la raison que j'ai dit dès le départ, c'est qu'il y a maintenant un doute majoritaire sur la légitimité du travail tel que l'organise la bourgeoisie. Et le pas qui n'est pas encore fait, c'est d'aller au-delà de la sécession. Plus exactement, d'accompagner la sécession, qui est micro, de conquête macro. Donc, il y a actuellement un mouvement de sécession massif. Il y a toute une part, non seulement de la jeunesse, mais des travailleurs qui n'inscrivent pas leur travail dans les institutions capitalistes ou qui essayent de ne pas l'inscrire. Et c'est la source, pour moi, d'un grand espoir. Tant qu'il y a une adhésion à la façon dont nos adversaires organisent le travail, on ne peut pas avancer beaucoup. On peut conquérir des choses, mais je cite souvent cet exemple au demeurant récent dans mon expérience, mais enfin qui m'a fait réfléchir. Dans un colloque à Toulon, un ouvrier de l'Arsenal, un retraité, je le mets dans le bouquin d'ailleurs, je crois, un retraité éminemment respectable, quelqu'un qui a un retraité de CGT, qui s'est battu toute sa vie, enfin pour lequel c'est vraiment des militants pour lesquels j'ai le plus grand respect, qui nous dit, moi, toute ma vie, j'ai distribué des tracts disant la défense nationale, ça doit produire des armes pour la défense nationale, point. Évidemment, je produisais des exocètes, vous voyez. C'est ce « évidemment-là » qui est tragique, vous voyez. C'est-à-dire d'accepter de faire ce contre quoi on milite. Tant que nous acceptons que notre travail soit contradictoire avec ce pourquoi nous militons, nous ne pouvons être que dans la défaite. Donc, toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui sont dans la sécession, au sens où, à côté des grandes organisations capitalistes du travail, ils cherchent à créer des librairies indépendantes, des tiers-lieux, enfin, on peut multiplier, enfin, de l'agro non-business, de l'énergie, du logiciel libre. Enfin, c'est infini aujourd'hui et c'est magnifique. Hein. Là, tout l'enjeu, c'est que cette détermination
à produire autrement, ce qui est pour moi le cœur de la sortie du capitalisme, sortent de la marginalité ou de la récupération possible. Et pour cela, il faut des institutions macro, celles que les communistes ont été capables de créer. Je parle du statut de la fonction publique, du régime général, sécurité sociale, etc. etc. Et c'est pour cela que tu y faisais allusion. Nous réfléchissons à Réseau Salariat, et pas tout seul, et avec d'autres aussi, à mettre en sécurité sociale toutes les protections, toutes les productions. On a une expérience magnifique. Et si elle est l'objet d'une telle détermination à la détruire depuis 30, depuis 40 ans, c'est parce qu'elle est magnifique. C'est notre force, c'est qu'on fait le boulot. Il n'y a pas de valeur économique sans valeur d'usage. Et la valeur d'usage, c'est nous qui la produisons. C'est pour ça que je milite pour des grèves qui ne soient pas l'arrêt de la production, mais qui soient la décision de produire en envoyant aux plots les protocoles, en envoyant aux plots les directives et directions, en produisant comme nous l'entendons. C'est ça la grève qu'il faut faire maintenant. Produire comme nous l'entendons. Notre seule force, c'est que c'est nous qui faisons le boulot. Et que, quel que soit le baratin sur le capitalisme financier qui arrivera à faire des petits tout seul, c'est pas vrai. Et on l'a vu en 2007, la fiction du capital fictif. On a bien vu ce que c'est. Notre force collective, c'est le travail. Et c'est pour cela que ça doit être le cœur de notre mobilisation. Quand dans une analyse, le travail est secondaire, qu'on est surtout sur la monnaie, sur la finance, etc., on ne voit pas la puissance d'agir des travailleurs. Donc, à partir du moment où vous ne mettez pas le travail au cœur de votre analyse, vous sous-estimez les effets révolutionnaires d'une prise de pouvoir sur le travail qui n'attend pas le préalable de la prise de pouvoir sur l'État. Certes, pour prendre le pouvoir sur le travail, dans la sécession et dans la conquête d'institutions macroéconomiques qui sortent la sécession de la marginalité ou de la récupération, qui sont les deux périls de toute sécession. Cette dissidence, il s'agit de l'armée avec des institutions macro. Et là encore, il y a une sous-estimation de l'alternative telle que les travailleurs organisés sont en capacité et ont déjà démontré la capacité de la poser. Et du coup, on est dans l'attente. C'est demain. Et c'est là que moi, comme communiste et comme chrétien, je dis ras-le-bol, d'accord ? Il ne se passera rien demain. Il n'y a pas de communisme qui ne soit déjà là. S'il n'y a pas du déjà là, il n'y a pas de communisme. Le communisme demain, ça n'existe pas. C'est ce rapport au présent qu'il faut être capable de vivre et de théoriser, d'en sortir avec l'attente du futur. La question, c'est sur quoi nous appuyons-nous pour conquérir le rapport de force qui viendra à bout de leur désaccord. Est-ce qu'on s'appuie sur la prise du pouvoir d'État ou sur la prise du pouvoir sur le travail ? C'est ça le point. C'est ça le déplacement qu'il s'agit d'opérer, à mon sens. Au café de la banque, ça ne s'invente pas, d'accord. C'était le café de la banque. En face de Asset Management BNP, une espèce de grosse pâtisserie, une ancienne chapelle peut-être, transformée en le lieu des grosses saloperies d'asset management que fait la BNP. Voilà. Quand vous avez 20 jeunes qui ont fait 10 ans de finance, qui ont été essorés, qui ont été des gagneurs à la City, et qui me font venir parce qu'ils sont... Ils ont perdu toute confiance dans ce à quoi ils ont mis leur... Mais enfin, il y a une classe révolutionnaire, bien sûr. Elle n'a pas la forme que nous avons connue. Et alors ? On ne va pas faire des anciens combattants du congrès de 76. C'est formidable, enfin. Tu imagines un cadre des années 70 qui... Mais il s'adhérait à l'entreprise complètement. Aujourd'hui, tu as des cadres de France Télécom qui te demandent de venir, qui disent mais enfin on a perdu toute technicité, on passe notre temps à bavasser pour des contrats de sous-traitants, on ne sait plus rien faire, c'est fini. Alors qu'on a une formation d'ingénieur, ils en ont ras le bol. Donc, alors on est dans quelque chose qui doit maintenant se construire positivement. Je suis entièrement d'accord. Mais il y a, encore une fois, au cœur de mon optimisme, il y a la perte d'hégémonie de la classe bourgeoise sur le travail. Pour moi, elle est en train de perdre son hégémonie. Pour des raisons écologiques, par exemple, mais pour des raisons aussi anthropologiques de travailleurs qui ne s'y retrouvent plus dans le travail ou le non-travail qu'ils sont en train de faire.
Des corps, de la bricole et un de ces merdiers
sur Radio Piquesse.